Je suis arrivé dans la vallée du Javron en 1994. À l'époque, j'étais artisan ébéniste menuisier en Lozère, Florac, et j'ai eu un parcours. Bon, donc du coup, j'ai voulu me recycler. Donc je suis venu dans ce pays par accident, entre guillemets, parce que je cherchais une gérance de restauration, parce que je voulais me recycler dans ce domaine. Il y a mon frangin aîné qui m'appelait, il m'a dit tu cherches un truc, il y a quelque chose qui se libère dans le pays. Bon, ok, bon, je lui ai dit écoute, bon, pourquoi pas, mais j'ai d'autres perspectives par ailleurs. 1994, on revient sur les dates, c'est vachement important. C'est pas 2014, non, c'est 1994. La gérance la plus rapide, ça a été celle-là. J'ai beaucoup hésité, je suis venu visiter, et puis j'ai dit, bon, ok, ça marche, pourquoi pas. Voilà, donc depuis 1994, j'ai pris le bistrot de Noyers sur Javron, avec des prétentions de faire vivre une certaine culture, déjà, culture intellectuelle, musicale, théâtrale, etc. Avec cette alliance déjà avec les gens qui produisaient des lapins, parce que le bistrot-restaurant, c'était un bistrot-restaurant. Et il n'y en a plus depuis lors. Bref, là c'est une petite historique. Bistrot-restaurant en question, tourné à fond la caisse, parce que c'était une nouveauté. Ça s'appelait chez Giano. Une compagne à l'époque qui s'appelait Jeanne, galloise, et on a combiné un truc, un jeu de mots quoi, avec le pastis, chez Giano, Jeanne. C'est à partir de là qu'a commencé l'amour de la vallée du Javron. Il y a eu des mariages, il y a eu des combinaisons incroyables. Le monde venait au bistrot de Noyers-sur-Javron parce qu'il y avait une nouveauté, quelque chose de regain, de quelque chose d'incroyable. Et notamment auprès des anciens du pays. Parce qu'ils jouaient aux cartes, mais ils ne venaient plus parce qu'il n'y avait pas d'engouement, de ci, de là. Tous les samedis après-midi, la salle était pleine, avec notamment les Imbert de Saint-Martin. Alors, c'est une anecdote assez drôle là-dessus, parce que MBR, Debert, bonjour les dégâts. Hop là, alors il y a l'aîné qui allait chercher le pain chez notre ami Miglior, qui était boulanger à l'époque à Noyers, avec qui on était super truc. Donc du coup, les après-midi, c'était un petit peu la blague de tout le monde, évidemment. Ça s'était rentré dans les mœurs à l'époque. Même avec le curé qui restait encore à l'époque, il y avait encore un curé à cette époque-là. Et Humbert, Debert, bonjour les gars, c'était devenu une phrase clé. Voilà, alors donc il venait jouer aux cartes, soit à la manie, soit à la moune, mais plutôt à la belote. C'était comme ça que ça se passait. Je crois que ça a été les dernières années, jusqu'à 97. Où il y a eu le bistrot rempli de joueurs de cartes. D'autant que, avec ce souvenir et puis cette amplitude relationnelle, parce que moi je dis amplitude parce que c'était vraiment ça, quoi. Ils se retrouvaient, les gars, tout le monde se retrouvait pour parler de leurs petits problèmes. Donc je proposais. Avec l'assentiment de la commune, hein, parce que quand je me suis avancé en 94, voilà, mon projet c'était ça. C'est-à-dire, moi je viens reprendre ce bistrot de fête, mais je vais le développer. Parce que quand je l'ai pris en gérance, c'était un hall de gare, quoi. Franchement, c'était blanc-gris, aucune personnalité, à zéro, quoi. C'était le bistrot d'antan, où on s'arrête, boire un petit coup, mais on s'arrête, voilà. Bon, là, j'ai mis de l'énergie qu'il fallait, je pense. Donc, avec la mairie, J'ai dit, voilà, moi, je propose, je vais faire des animations toutes les semaines. Des animations musicales, théâtrales, machin, blablabla, blablabla. Et puis, à l'actualité de ce qui se passe de par le monde. Donc, il y avait un dépôt de DVD à l'époque, ça s'appelait comme ça. Voilà, il y avait ça, il y avait des dépôts de produits locaux, il y avait diffusion de capotes anglaises sur le comptoir, parce qu'il n'y avait pas que des œufs, il y avait aussi ça, avec des cacahuètes, ici et là, bon, voilà. Information pour les jeunes gens, qui était importante à l'époque, c'était le sida, bien sûr. Donc, les relations sexuelles, pas n'importe comment, donc avec des capotes. De fait, dans ce bistrot, j'ai déjà un petit peu bousculé l'ordre établi, entre guillemets, l'ordre établi de ce qui était dans le sens. Bon, tout y va mener à cette époque-là, puisque, en fait, comme j'étais d'un dynamisme remarquable, et Saint-Vincent, toutes les communes alentour m'appelaient pour faire les fêtes votives, puisque bon, je proposais pour faire des palias et des choses comme ça. Je faisais le traiteur aussi déjà, un truc de fou quoi, avec les produits locaux, complètement quoi. Non, mais je faisais des trucs, mais ça paraît un peu insensé. Ah, donc avec Miguior, le boulanger de l'époque, on a été les derniers coachs du club de foot de la vallée du Jabron, avec Jean-Claude Miguior, il s'en souviendra, il pourrait être témoin de ce que j'avance, de ce que je dis, on faisait ce genre de choses. On était les coachs pour ci, pour là, et puis on faisait des blagues, on faisait beaucoup de choses, et notamment le comité des fêtes. Le comité des fêtes de Noyers sur Jabron. Ça a été extraordinaire. Les gens s'en souviennent encore. On a fait des trucs de complètement dingo, quoi. Et par chance, et par heureusement, il y avait encore ce fameux curé qui était là. Je ne me souviens pas trop son nom, en fait. À qui un jour, j'ai dit, écoute, parce qu'il venait boire un petit canon au bistrot, comme les mamans qui amenaient les enfants à l'école, les papas qui amenaient les enfants à l'école, tout le monde s'arrêtait au bistrot. Tout le monde. Enfin, c'est encore. Quand on dit tout le monde, non, c'est pas le monde entier. Mais bon, vulgairement exprimé, c'est ça. Quand même, beaucoup de personnes venaient s'arrêter à ce bistrot pour, bref, pour venir à cette fameuse festive en question, j'avais proposé avec le boulanger, donc Guillaume, et avec les pompiers qui assuraient le truc, j'aurais dit, on va faire une festivité remarquable pour le 14 juillet, et faire trois menus. Parce qu'on a fait une proposition d'affaires, quoi. Le curé était d'accord, quand je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose de grandiose à ce moment-là, il m'a dit, mais mets-moi le feu à l'église. Alors j'ai dit, ça c'est éminemment spirituel, mets-moi le feu à l'église. C'est-à-dire que lui-même n'avait plus envie de subir quelque chose. Et enfin bref, bon, du coup, avec les pompiers, on a fait une chose remarquable. On est monté jusqu'au fait de l'église de Noyers-sur-Jabron, qui est quand même là, et on a embrasé ce fameux 14 juillet 93, 95 ou 16, je ne sais plus. J'ai la mémoire qui flanche. Non mais bon, c'était ça quoi. Et ça a été une révolution, parce que les élus du moment ont flippé comme des malades. Parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Avec leur ressentiment de base. Et après, bon. Donc on a fait des choses extraordinaires dans ce village. Enfin, avec mon énergie. Bon. Tout ce que j'avais avancé de dire qu'on va aller dans quelque part. Donc, dans ce bistrot, foyer rural, rencontre, enfin, toutes les assos un petit peu sociales, qui organise des choses. Il y avait des réunions dans ce bistrot. C'était redevenu un bistrot. Alors que c'était un hall de gare, c'est devenu un bistrot où tout le monde se rencontrait, tout ça, blablabla. À tel point que tous les même le syndicat des bistroquets étaient jaloux de la chose parce qu'ils venaient me voir, mais comment tu fais pour attirer tant de monde, tout ça, blablabla, blablabla. Les sirops les moins chers du monde, du département en tout cas, parce que les gamins n'ont pas de sous. Donc voilà, moi je mourrai dans tout azimut. Il y a des souvenirs, là, ça. Il y a des témoins de cette chose-là. Bon, bref, à la suite de ça, je faisais trop de bruit, évidemment. Donc du coup, on m'a dit, et même le propriétaire du bar, parce que c'est une gérance, en fait, c'est pas. Voilà, m'a dit bye bye, et la commune a commencé à flipper, j'avais les gendarmes toutes les semaines. Un truc de dingo, quoi. Et ça, des élus et des gens de Saint-Vincent en seraient témoins, puisqu'une fois, ils se sont tous fait gauler avec leurs copains, gendarmes, enfin bref. Ça a été terrible. On me tapait dessus sans arrêt. Ok. Cool. Mais la vallée me plaît. C'est ça le point sensible de notre rencontre, sûrement. Parce qu'elle a une telle biodiversité, dans tous les sens du terme, qui est remarquable. Donc, pause. On m'a éjecté de tous les villages, après un Saint-Vincent aussi m'a rejeté. Il y avait Gabi. Musée du casque là, qui était élu à l'époque, m'a dit moi si Norbert il s'arrête au village, j'ai habité chez Madani, où maintenant ce qui a été vendu à Philippe et Emmanuel, voilà, j'ai habité là un petit moment, mais un beau jour ils m'ont dit il faut que tu évacues parce que la commune pète les plombs, on veut pas de toi chez nous. Blablabla, parce que je faisais trop de bruit, quoi. Peu importe. Parce que, voilà, parce qu'on était. Moi, j'avais employé Karim au bistrot, et on était en plein de copains et peu d'amis, finalement, quelque part. Beaucoup de copains. Tu sais, quand tu es en avant-scène, c'est vachement délicat, quoi. Et dans cette vallée du Jabron remarquable, d'est en ouest, c'est peut-être pas anodin qu'elle soit comme ça et qu'il y ait autant de problématiques relationnelles. Peut-être cette situation. Bref, ça c'est du subodore, plein de choses. Tu sais, je réfléchis dans ma tête. Et donc voilà, et je suis resté là avec un verre et contre tout. Et donc dans ce l'ombre. Après toutes ces péripéties sociales et communautaires en village, Claude Roustan, parce que l'endroit me plaisait, je l'ai visité, et puis je le connaissais parce qu'il fréquente le bistrot avec les anciens pour jouer aux cartes ou quelque part. Et on était en sympathie, mais pas plus que ça. Et moi qui campais à Montfroc, jusqu'aux Omergues, à La Fontaine, enfin bref, rejeté, vraiment, je te jure, ça a été un petit peu délicat. Hein. La suite du bistrot, ouf, j'ai morflé. Hein. Ça a été une épreuve dans ma vie vachement douloureuse. Parce qu'on ne m'aimait pas. Parce que trop à l'avant-garde de certaines choses. Mais la vallée me plaisait tellement, et puis la compagne à l'époque avec qui je vivais, on s'est dit, tellement de choses à faire ici qu'on ne va pas s'en débarrasser, ou alors on s'en va définitivement. Non, on s'est dit on va rester. Et je connaissais Claude Roustan, cette bâtisse. Je ne la connaissais pas parce que je la connaissais, mais je la connaissais dans le fond de moi, en fait. Tu sais, quand tu as un lieu, un endroit, un ami, une amie, tu sens un relationnel important. Quelque chose qui vibre en toi quand tu t'arrêtes quelque part. C'est informel, c'est complètement délirant pour certains, mais en vérité, ça l'est. C'est. Alors certains le remarquent, en prennent conscience, puis d'autres, ben, pas du tout, parce qu'ils passent à travers, ils se disent, bon, pff, que c'est quoi ce trouble-là que j'ai là-bas? Oh, rien à foutre. Moi, non. Voilà. Donc du coup, le Claude, je l'ai interpellé pour dire, écoute, moi, ça me plairait de vivre dans ton pays, quoi, là. Il me dit, non, mais moi, je n'aime pas, blablabla, blablabla. Ça, c'est un des piliers de la vallée du Jambon, quand même. Donc, comment ça se passe avec lui? Il me dit non. Alors, je suis en caravane, j'étais de l'autre, de l'autre, et puis bon, et tout ce qui se disait sur le bistrot, ma personnalité, blablabla, rien à péter. Il ne vendait pas à personne. J'ai été le voir 3 fois. La 4e, c'est lui qui m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, écoute, passe me voir. Sans plus de commentaires. Pouh, à l'époque, je vivais avec Olivia Martin, qui fait des plantes médicinales. Et du coup, ça a été une rencontre formidable. Parce qu'il m'a dit, ok, je te lègue ma propriété. Bon. Je te la vends. Et c'est comme ça qu'on dit. Hein? Je te donne pas, je te lègue ma propriété. Parce que je sens que tu vas en faire quelque chose. Voilà. Et effectivement, la bâtisse, c'était une masure, ouais, dans le plein sens du terme. Ça veut dire inhabitable. Pas de cheminée, pas de fenêtre, pas d'eau, pas d'électricité, zéro. Pas de sol, nulle part, zéro. Un beau tas de pierres. Encore hors d'eau. Voilà. J'avais pas les sous pour acheter la propriété. Ça, c'est très important. Parce qu'il vendait 100 hectares de plus avec la bâtisse en question. Et j'ai dit non, moi, je peux pas. C'est trop cher, quoi. Il s'était engagé à mon égard parce que mon projet avec Olivia, c'était ça. Je dis bien avec Olivia. Olivia qui est un petit peu en réserve, toujours, parce que voilà. Mais quand même, bon, c'était mon projet quand même. Donc, il a arrêté cette proposition de me vendre. 5 minutes. Comme on le fait par exemple là maintenant, par exemple. Tu vois, si on fait la pause, quand on discute avec quelqu'un, quelquefois il faut une pause parce qu'on se regarde dans les yeux, parce que. On a quelque chose qui est tellement fort que les seuls 2 interlocuteurs peuvent partager. Voilà. Et il m'a fait le coup, cela. Il m'a fait ce coup-là. Un silence tellement profond. Je m'ai dit au clit, Norbert. Il bégaye un petit peu, le Claude. De moins en moins, mais quand il parle, c'est arrêté. Ça veut dire que dès lors qu'il a pris sa décision, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Du coup, il m'a dit, écoute, Norbert, je le fais pas comme je l'ai proposé précédemment, parce que pas la peine, ça a duré trop longtemps. On va choisir les terres. On a pris une carte. Tu peux pas tout acheter. C'est quoi ton projet agricole? Pouf. Alors donc on a fait parceller comme il faut. Voilà. Ça c'est formidable. T'as besoin de ça pour faire ça. T'as pas les sous pour tout. Et il te le racontera de la même manière. Le point fort, ça a été que tout ce qu'on me raconte sur ta gueule, J'ai rien à foutre. Voilà. Donc depuis, depuis lors, eh bien, dans ce monde existe, avec des hauts et des bas, comme toute entreprise. Hein. Danse l'ombre, parce que ça s'appelle comme ça. Le quartier de montagne s'appelle Danse l'ombre, c'est sur les cadastres. Par contre, la ferme en elle-même s'appelle la Combe d'Amao. Et en provençal, il y a plein de diminutifs, parce que le provençal et le français, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, la Combe d'Amao, c'est le vallon des amoureux français. Voilà. Donc mon prochain site, si je continue à vivre là, ce sera plutôt la Combe d'Amao que dans ce l'ombre. Parce que dans ce l'ombre, ça peut perturber certaines... Dans ce l'ombre, il a démarré, c'est-à-dire il a fallu plus de 3 ans pour mettre les terres en exergue, les retravailler, constitution des troupeaux de bêtes, parce que bon voilà, je me suis recyclé dans la paysannerie, avec ce désir culturel, la culture avec la culture, dans tous les sens du terme. Voilà. Donc du coup, ce que j'avais lâché sur Noyer le bistrot est revenu ici avec des conditions complètement différentes, évidemment, qui étaient plus élaborées, entre guillemets, parce que plus de bistrot, donc pas de licence 4, plus d'alcool, plus de genre de provocation éventuelle dans ce domaine. Tu sais, le bistrot, c'est... Bon, moins de psychologie, puisque, voilà, un bistroquet, quand tu es bistroquet, tu es psychologue. Tu es carrément psychiatre, quelquefois. Ça va jusque-là. Hein. On reçoit des gens, mais on se demande, quoi. Et puis bon, le relationnel du pays, dans ce pays, à l'époque, paysan, c'était... pas possible, quoi. D'un côté à l'autre du comptoir, ils étaient là tous à boire des canons chez moi, mais ils ne voulaient pas se fréquenter. Voilà, c'est des histoires pagnolesques, quoi. Hein. On les connaît toutes. C'était exactement ça. Premier bistrot de pays, puisqu'il n'y en avait pas d'autre sinon à Fort-Calquier, c'était un truc de fou, quoi. Parce que justement, je proposais toutes le relationnel paysan, tout ce qui est concert, pas forcément concert d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de théâtre, beaucoup de conteurs. Moi j'ai des images, hein, j'ai des photos, hein, j'ai un book assez hallucinant là-dessus. La culture. J'ai proposé, même que entre les bistrots, parce qu'il y a plein de bistrots encore, donc le bistrot a été repris à Noyer. Le bistrot à Saint-Vincent aussi, et il y avait 3 lieux de, comment je pourrais dire, bistrot-restaurant, dans la vallée de Javron. Et à cela même, je leur ai dit, écoutez, c'est cool qu'on puisse faire des interbars pour des belotes, ou je ne sais quoi, des jeux de société. Maintenant, ça se pratique un peu de partout, par téléphone, tout ça, tatati, tatata. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, l'actualité de Danse l'ombre, c'est des remises en question totales. Ça veut dire, comme je ne fais plus de maraîchage, parce que ma compagne n'est plus dans l'histoire, j'ai mis à disposition des terres maraîchères. Ça, c'est l'actualité, et qui est en pleine effervescence. C'est-à-dire que là, enfin, je rencontre des gens suffisamment intelligents et qui ont compris que notre avenir est culturel et agricole et la proximité. Complètement. C'est une nouvelle génération qui a entendu la chose avec les études qu'ils ont faites et complètement avec des bacs, machin, tatati, tatata. Mais ils ont compris que l'humanité ne survivra que si on perpétue cette façon de cultiver les choses. Et notamment, bien sûr, le maraîchage. Ok. quelques céréales s'il le faut. Moi, j'ai toujours dit que la vallée du Jabron, si on la boucle d'est en ouest, parce qu'elle est est en ouest, hein, on la boucle à Pépin et on la boucle au col de Jean Crest, on vit en autonomie totale. On a le gibier, on a les céréales, on a les légumineuses, on a tout ce qu'il faut pour survivre en toute quiétude. On a un potentiel culturel suffisamment important pour pouvoir se distraire tous les samedis soirs ou tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, on sait cuisiner, on a tout ce qu'il faut pour faire. Moi qui maintenant me suis mis au pain depuis maintenant 10 ans, j'ai cette faculté de savoir faire le pain. Mais donc il y aura moult échanges de savoir-faire. C'est un peu délirant, mais c'est comme ça. Du coup, dans ce l'ombre, on revient à l'avant-scène parce que c'est des terres que je remets à disposition pour perpétuer la connaissance. Et c'est des jeunes gens. Mon histoire, c'est de donner ma connaissance à qui veut bien l'apprendre, avec un accompagnement, parce qu'il le faut. Certains autres dans cette vallée, évidemment, se sentent tellement éternels qu'ils ne donnent goutte de leur savoir-faire. Tant pis pour eux. Ils s'en iront comme ils ont vécu, bêtement, imbécilement. Tant pis pour eux. Moi, je n'ai pas cette prétention d'être égocentrique jusque-là. Je dis simplement que mon ego, il va à la poubelle quant à la connaissance que je peux. Le savoir-faire. C'est comme avec mes enfants d'ailleurs aussi. Hein, ici, c'est plutôt un oasis pour eux. Ça sera un oasis. Parce que c'est des grands enfants que j'ai, évidemment. On peut s'en douter. Hein. Bon, ils ne sont pas ni paysans, ni quoi que ce soit, blablabla. Mais par contre, dans leur petite enfance, je leur ai donné quelques notions de vie et de survie qui sont importantes. Et là, c'est un oasis pour beaucoup de gens, parce qu'une propriété comme ça, même si elle n'est pas très grande, peut faire vivre 3-4 familles. Dans la vallée du Jabron, depuis 1994, donc j'étais le seul à proposer des choses culturelles, entre guillemets. Je dis toujours des guillemets, parce que la culture, c'est quoi ? Bon. Mais l'expo, théâtral, musical, tatati, tatata, tout ce qui est des arts, les arts de notre monde qui nous font vivre, qui nous font respirer dans le cœur, ce qui nous inspire pour devenir enfin des humains. C'est-à-dire que si on n'a pas la culture, on est mort. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'échange d'imagination, parce que la culture c'est ça, c'est l'imagination, transmise par les voix, la peinture, va savoir, tout un tas de possibilités. Bref, donc, depuis 1994, j'étais le seul à proposer ça. Moult, parce que moult, c'est pas bon. Donc, c'est moult fois, voilà, en association avec donc, les foyers ruraux, Mireille Sabonin, pourrait t'en parler, j'étais un peu le centre du monde, Noyers-sur-Jabron, c'est la même relation avec dans ce monde. C'est-à-dire que je n'ai fait que remettre dans un endroit plus agricole ce que je proposais jusque-là. Bref. Il y a plein de gens qui ont été jaloux de je ne sais quoi d'ailleurs, jaloux de quoi. Complètement hallucinant l'affaire. Mais c'est comme ça. À présent, il faut encore ouvrir nos fenêtres et principalement la mienne. J'étais à un moment donné troublé là ces derniers temps parce que on a oublié tous les préliminaires que j'ai avancés depuis ces années-là. Et donc les gens se sont mis à faire de la culture. Voilà, c'est je sais pas ce que c'est devenu, c'est transformé. Et là c'est une problématique sociopolitique. Philosophique de notre époque, Ils se sont mis à faire de la culture, mais pas pour faire de la culture, parce que économiquement, ça pouvait être intéressant pour leur propre entreprise, pour se démarquer, comme on dit. Moi, j'ai rien contre ça, on n'a qu'à se démarquer. Mais pour se démarquer, il faut faire des choses extraordinaires. Extraordinaire, ça veut dire quelque chose qui n'a jamais encore été réalisé, ou proposé, ou en tout cas, extraordinaire. Là, je parle de l'actualité maintenant, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je commence à... j'ai plutôt envie, et là pour l'actualité, j'ai plutôt envie de qu'on se fédère dans ce domaine. Qui fait quoi, comment, pourquoi on le réalise? Est-ce parce que c'est une mode ou parce qu'on veut se tirer sa couverture à soi, ou est-ce qu'on veut faire du commerce de la culture qui n'en est pas en vérité, parce que c'est tellement compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Faire de la culture dans nos campagnes, c'est plus le baluche d'il y a 50 ans en arrière. C'est plus ça du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vallée sublime qui s'appelle la vallée du Javron? Et avec qui on le fait? Et pourquoi on le fait? On le fait pour nous, on le fait pour le collectif qui est l'environnement, c'est-à-dire la population. On le fait pour quoi? Si c'est un problème économique, enfin, une question économique, oui, alors que ça soit clairement dit. Et non pas dire, ouais, je vis dans cette vallée pour tatati, tatata. Voilà. C'est un choix de vie, une philosophie de vie. On ne vit pas quelque part par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je ne me considère pas éternel. Donc du coup, je pense que je vais passer le relais à qui voudra prendre le relais, le bâton en question. Ce n'est pas mes enfants, donc l'avenir dans ce l'ombre, tant que j'ai cette énergie inventive, je ne suis pas parti. L'avenir dans ce l'ombre, c'est une oasis. C'est là où des jeunes gens vont pouvoir s'impliquer dans cette belle nature, parce qu'ils n'ont pas de sous, parce que les gens autour ne vendent pas, ne donnent pas un mètre carré. Moi, je cite des tas de noms dans cette vallée du Javron qui ont des propriétaires terriens, ils ont des centaines et des centaines d'hectares, ils n'en donnent pas un seul hectare pour rien du tout, parce que la PAC est importante, la prime agricole compensatoire, qui est devenu le revenu principal de tout agriculteur dans la vallée du Javron. Moi, je suis le seul à mettre à disposition des terres pour des jeunes gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les sous pour acheter du foncier parce que ça leur est interdit. Je appuie sur les mots que je prononce. C'est institutionnellement informel. Ça veut dire que c'est pas forcément autorisé par les États, quoique avec quelques, comme avec Pierre Rabhi et tous ces gens-là que moi je connais bien et avec qui j'ai travaillé. Parce que c'est pas facile de venir dans ce pays-là. Il est très 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 délicat. En agricole, il n'y a que ceux qui sont là depuis fort longtemps, qui font des pommiers maintenant. Parce que c'est un délire total avec cette PAC pourrie là, qui interdit la vérité de la vie. La PAC, c'est le mensonge instauré, constitutionnalisé. Là, à nouveau, je l'ai prononcé dans le bon sens, jusqu'à la lie. Et comme engagé dans cette société, évidemment, pas évidemment, en fait, en tout cas pour moi, évidemment, je suis à la Confédération Paysanne, et l'autre fois, on était à la SAFER. Et je veux participer à ce genre de choses parce que la SAFER, c'est un organisme associatif aussi, hein, faut pas non plus, mais qui, avec le soutien imbriqué avec ce phénomène complètement hallucinant, une imbroglio économico-agrico-mondialisation, non, mais cool, le temps se brouille. Mais le fait de participer, parce que j'ai un point de vue à ce propos, qui fera quoi avec ces terres-là, tout ça, tatata. L'autre jour, donc, j'étais convoqué à la SAFER pour des terres qui vont être, qui ont été en vente et qui ont la prétention d'être retravaillées par tatata. Si je n'avais pas été là, si ce point de vue-là n'avait pas été là, présent, après toutes les analyses, toutes les correspondances entendues, il y aurait eu un bug. Bon, il se trouve que là, c'était assez simple. Ça s'est bien passé. Mais s'il n'y a pas le point de vue de la vie dans ce genre de redistribution des terres agricoles, ça donne la voie aux chasseurs de primes, tout simplement. Et qui dit chasseurs de primes, rien à foutre des terres, rien à foutre de la vie, juste pour cette PAC. Fuck bastard. Un beau projet, ce serait effectivement qu'il y ait cette conciliabule entre les gens, c'est-à-dire un regain de reconnaissance mutuelle, pour une survie évidente. C'est-à-dire qui est. Pour moi, c'est, que ce soit la vallée du Jabron ou la planète, si c'en est une, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est le respect de l'autre, à quelque niveau que ce soit. Et des lieux qu'on a plaisir à fréquenter parce qu'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de problématiques relationnelles. Voilà, tu sais, moi je suis un petit peu pas cool, hein, quelque part dans ma tête. Par contre, j'ai appris le pays. Et ce que je souhaite, c'est que une résurgence de bonheur et relationnel.